Merci beaucoup Catherine Dutu. J'ai compris pourquoi vous parliez de Metz, parce qu'on va parler de l'exposition Couple Moderne qui est organisée au Centre Pompidou Metz. En votre compagnie Emma Lavigne, bonjour, vous êtes historienne de l'art, vous dirigez le Centre Pompidou Metz, vous êtes co-commissaire également de cette exposition Couple Moderne qui est organisée donc au Centre Pompidou Metz en collaboration avec le Barbican Center de Londres. Et c'est donc une exposition qui est consacrée aux couples d'artistes et il en est un qu'on ne se lasse pas d'entendre, c'est Salvador Dali racontant sa rencontre avec Gala.
Quand on est jeune,
c'était terriblement subit puisque la première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose, alors j'ai mêlé la colle de poisson, et après j'ai mis de l'aspic, un aspic qui était d'ailleurs très décomposé, alors le tout puait d'une façon invraisemblable. Et j'ai commencé la séduction, qui a très bien marché, enfin, c'est question d'une semaine, elle était amoureuse de moi.
La voix de Salvador Dali, je ne sais pas si c'est utile, Emma Lavigne, de préciser qu'il s'agissait de Dali, ni d'ailleurs qu'il s'agit d'un couple extrêmement célèbre. Parmi ces couples modernes que vous explorez dans cette exposition, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Dali.
Alors, la citation est quand même extraordinaire et on peut dire que Dali parle de sa rencontre avec Gala comme André Breton et Paul Éluard dans le dictionnaire abrégé du surréalisme avaient noté ce qui se passait sous le mot « rencontre ». C'était « quelle a été la rencontre capitale de votre vie ? Qu'est-ce qui vous fait bifurquer ? Qu'est-ce qui vous fait créer autrement ?» Et là, on sent que cette rencontre est complètement sous le signe du surréalisme. Cette phrase de Dali nous emmène dans une des complexités de l'expo, c'est-à-dire que on a aussi réfléchi à 40 couples d'artistes qui sont des créateurs. Alors, on connaît beaucoup de muses du surréalisme, comme Gala. Est-elle juste une muse? Est-elle aussi une artiste qui fait là une sorte de performance nue dès qu'elle rencontre Dali? On a eu envie de remettre certaines des artistes femmes méconnues sous la lumière. Et donc, on s'intéresse vraiment au processus, pas uniquement d'inspiration, mais de création. Est-ce que Gala, elle aussi, est une artiste qui crée. Est-elle une muse? Est-elle une performeuse? On peut la définir sous différents angles.
Oui, parce que alors, il faut préciser qu'il y a à la fois dans ce catalogue et dans cette exposition toutes sortes d'artistes, de couples aussi. C'est très hétérogène, couples à deux, à trois, à quatre. Couples aussi qui sont formés avec des éléments communs, si j'ose dire, puisqu'il y a des hommes, des femmes qu'on retrouve. Je pense évidemment à Gala, à Nouche, à d'autres femmes, d'autres hommes que l'on voit revenir au fil de ces pages, formant en quelque sorte des réseaux artistiques.
En effet, l'idée n'est pas de donner une lecture unique du couple, mais de montrer combien dans cette première moitié du XXe siècle, le couple a été une matrice qui a permis à des artistes d'exister, comment ça a été aussi un espace de grande liberté. On peut citer l'exemple de l'artiste merveilleuse Claude Cain et de sa compagne Suzanne Malherbe.
Racontez-nous leur histoire.
Alors, elles se sont rencontrées dès l'adolescence, au lycée, vu qu'elles sont apparentées. Donc, elles ont la chance de pouvoir abriter leur amour homosexuel dès leur jeunesse dans la maison familiale. Claude Cain est une artiste qui va créer une forme de théâtre de l'intime, qui va prendre des photos d'elle où elle va affirmer un genre qui est le genre neutre. Elle le dit, je ne veux ni être une femme, ni être un homme. Et donc, il y a vraiment cette confusion des des identités qui va être saisie par sa compagne. Et donc, ça devient presque une œuvre à quatre mains qui va même jusqu'à la période de la guerre, à un engagement politique très fort, vu qu'elles ont milité contre le départ des troupes allemandes dans l'île de Guernsey où elles habitaient toutes les deux. Elles ont été emprisonnées. Donc, ça a été une œuvre singulière, portée beaucoup par Claude Cahun, mais avec le regard, l'accompagnement des mots également de Suzanne Malherbe et un engagement de ces deux femmes dans les vicissitudes de l'histoire. Donc là, je dirais que c'est un couple qui a une durée d'existence extrêmement longue. Parfois,
avec un grand courage pour ces deux femmes.
Un grand courage et parfois, dans le tumulte de l'histoire, ce sont des étincelles amoureuses et créatrices, comme par exemple la relation qui lie Max Ernst et la très jeune Leonora Carrington, une peintre surréaliste anglaise qu'on connaît très peu en France, qui vont se réfugier juste avant la guerre, en 1938, jusqu'à ce que leur couple ne soit brisé par la guerre, à Saint-Martin-d'Ardèche, et qui viennent inventer une maison complètement transformée, comme une immense chimère, une œuvre d'art totale qu'ils vont composer à quatre mains.
Vous avez intitulé cette exposition Emma Lavigne, couple moderne. Et alors justement, si on reprend Claude Cahun et Marcel Moore, on voit dans leurs œuvres, dans les autoportraits et dans la manière dont Claude Cahun, par exemple, se met en scène dans ses autoportraits. Alors, il y en a un, par exemple, où on la voit androgyne. C'est intitulé « Don't kiss me, I am in training ». Ne m'embrassez pas, je suis en formation. C'est une œuvre de 1927. On voit aussi une superbe photo qui est exposée au centre Pompidou-Metz que vous dirigez, Emma Lavigne. Une photo de Claude Cahun où il y a des mains qui s'entrelacent, des mains dont on ne sait pas très bien d'ailleurs si ce sont des mains humaines, des mains de mannequins, des mains avec des rhizomes et des bifurcations. Ce sont des œuvres qui sont extrêmement évocatrices.
Ce sont des œuvres extrêmement, extrêmement fortes où l'on comprend combien le couple peut être à certains moments un espace de liberté, de créativité. Et Claude Cahun, d'ailleurs, le clame. Je réclame la liberté générale des mœurs, de tout ce qui ne nuit pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain. Et donc, on est vraiment parfois avec des artistes qui doivent se battre pour créer, pour réinventer leur œuvre. Et les photographies de Claude Cahun mettent en scène ce théâtre de la redéfinition de sa propre identité. Et elles doivent aussi se battre pour exister dans sa sexualité. Donc la question du genre traverse l'exposition, même si elle n'est pas centrale. Ce qui nous a le plus intéressé, c'est de voir comment l'autre, et vous avez employé très justement ce titre, vous fait bifurquer de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que ces deux femmes ont été proches du surréalisme, mais la force que donne le couple leur a permis aussi d'inventer une œuvre en toute indépendance, même si elle est traversée par l'influence de la pensée d'André Breton. Il y a quelque chose qui les autorise à aller jusqu'au bout de leurs intuitions artistiques.
Elles ont créé à deux. Elles ont créé à deux des... Je ne sais pas trop comment... Les qualifiés sont à la fois des natures mortes, des collages, on a affaire à des photos. Ça pourrait ressembler, non pas sur le plan formel, mais en tout cas on songe par exemple à Gilbert et Georges dans ce qu'elles ont fait, qui est extrêmement représentatif de cette période, les années 30, à la fois le surréalisme mais aussi l'utilisation d'un certain nombre de techniques photographiques, Emma Lavigne.
En effet, l'exposition s'arrête en 1950 parce que c'est un sujet immense. Dans l'exposition, il y a 40 couples de créateurs, alors d'artistes, de peintres, sculpteurs, mais aussi de designers et d'architectes, ou de musiciens, comme Gustav Mahler et Alma Mahler. Une grande histoire de passion et presque de destruction, où la femme a du mal à affirmer son génie qui ne peut s'inscrire qu'au masculin. Et l'exposition a beau être sur l'art moderne, c'est un sujet extrêmement contemporain quand on s'interroge sur les modèles de la famille, du couple, des identités, et anticipe certains couples de l'art contemporain, comme Gilbert and George. Certains souhaitent même un numéro 2 à cette exposition qui permettrait de poursuivre et de remonter le temps jusqu'à l'art contemporain.
Alors, vous avez parlé de Gustave Mahler et Alma Mahler, c'est une autre figure effectivement de cette exposition Emma Lavigne. Il faut rappeler qu'Alma Mahler a été pour son temps donc ce que Juliette Récamier a été pour le 19e siècle. C'est une figure féminine extrêmement brillante, c'est une figure féminine qui va aimanter autour d'elle un grand nombre de prétendants qui sont eux aussi des artistes. Je parlais donc de bifurcation. Il y a aussi des bifurcations dans le domaine des couples amoureux en art. Autour d'elle, on trouve Klimt, on trouve Kokoschka, on trouve Frankel. Il y a tous ces couples qui se forment, qui se déforment et qui en réussissent à écrire une page de l'histoire de l'art, avec quand même une injustice, vous le dites, pour Alma Mahler, puisque c'est plutôt Gustave Mahler que l'on retient aujourd'hui.
C'est vrai que à l'époque, la femme doit se consacrer au génie de son époux, et Gustave Mahler d'ailleurs lui demande, la supplie d'abandonner sa musique, la musique qu'elle est en train de composer, ses leaders, pour se consacrer à sa propre musique, à lui. Et donc, pour devenir sa femme, elle doit renoncer à son talent, alors qu'elle a été formée avec Zemlinsky, qu'elle est vraiment une grande figure déjà de la scène viennoise, une des plus belles femmes de son temps. Et à la mort de Gustav Mahler, on connaît la passion qu'elle va entretenir pendant 3 ans avec Kokoschka, puis ensuite elle sera notamment la femme de Walter Gropius, fondateur du Bauhaus. Donc il y a une grande liberté dans cette Vienne qui est traversée par la naissance de la psychanalyse, un esprit donc au tournant du siècle, qui fait que l'individu, même certainement Alma Mahler dans sa souffrance, à certains moments, elle le dit, j'ai résolu de me taire lorsque je souffre, je joue du piano, pour moi et pour qui, point d'interrogation. J'ai perdu tout plaisir de vivre.
Et oui, parce qu'elle abdique complètement pour son mari, elle a 19 ans de moins que lui, elle va donc mettre complètement entre parenthèses sa créativité, son sens artistique, et puis lui va en quelque sorte la vampiriser, puisque Alma Mahler, on la trouve dans la 5e, la 6e, la 8e et aussi d'ailleurs dans la 10e symphonie de Mahler, et qui est en quelque sorte construite sur la créativité de son épouse, on peut dire les choses ainsi, Emma Lavigne.
Oui, c'est quelque chose de beaucoup plus ambivalent, parce que l'homme souhaite occuper toute la place, et en même temps, il va lui dédier des œuvres. Il y a dans plusieurs couples de cette époque cette capacité de l'homme en même temps à pousser sa femme, à l'encourager à être elle-même, tout en venant signer parfois les propres œuvres de son épouse. Un cas pas très connu de l'histoire de l'art, parce que cette exposition est aussi un espace de relecture de l'histoire de l'art et de découverte. On peut citer le poète Marinetti, donc l'inventeur des mots en liberté et du futurisme.
Futuriste, oui.
Voilà, et il a passé sous silence très très souvent sa femme, Benedetta Cappa. Pourtant, c'était une grande artiste qui l'encourageait à créer. Il lui dit, tu dois créer pour toi, pour moi, pour nous. Et pourtant, elle a beau l'inspirer énormément dans notamment des courants du futurisme qui s'appelle le tactilisme, une approche plus sensible de l'art, il s'approprie les textes qu'elle va écrire pendant plusieurs années, et l'histoire de l'art l'a en partie oublié.
Alors cette exposition, c'est aussi une manière de rendre hommage, de rendre justice peut-être à ces femmes, Emma Lavigne.
Alors, il y a, comme vous l'avez dit, pas uniquement des couples hétérosexuels et même parfois ce qu'on a appelé le polyamour, comme dans le groupe du Bloomsbury autour de Vanessa Bell, la sœur de Virginia Woolf.
Ah là, il faut expliquer ce qu'a été le groupe de Bloomsbury, qui a été extrêmement important intellectuellement et artistiquement.
Voilà, c'est une communauté extrêmement libre où, autour de Virginia Woolf et sa sœur, qui était une peintre, Vanessa Bell, des artistes et notamment le mari de Vanessa Bell et puis deux de ses amants vont inventer et révolutionner même les arts décoratifs, la littérature autour de la maison d'édition fondée par Virginia Woolf et son mari. Donc un espace extensible où leur demeure de Charleston devient le lieu qui vient symboliser cette liberté de vie, cette liberté de création, la réinvention même de l'identité de ce qu'est un couple. Et tout le monde connaît bien sûr ce texte de Virginia Woolf, une chambre à soi. Il faut une chambre à soi pour créer et être soi-même.
Et alors, ce qui est très intéressant dans le groupe de Bloomsbury, qui est un couple, pas un couple à deux, un couple à plusieurs, c'est qu'il va irriguer la vie intellectuelle anglaise, donc au début du XXe siècle, avec des gens comme Keynes réussissant à entraîner lui aussi ses amants, je pense à un économiste comme Piero Sraffa. Donc il y a effectivement dans le groupe de Bloomsbury à la fois une réunion de l'amour physique, puisque c'était une atmosphère extrêmement sensuelle, mais aussi de créativité intellectuelle, et l'un est aujourd'hui indissociable de l'autre. C'est-à-dire que si il fallait tenter de reprendre la pensée de Keynes, eh bien, il faudrait la reprendre, toute économique qu'elle soit, la reprendre du point de vue de ses rencontres, qui étaient aussi des rencontres sensuelles et malavignes.
Oui, complètement. En fait, ce qui est passionnant dans cette période, c'est que ces couples d'artistes qui font jusqu'au polyamour sont aussi pour la plupart très impliqués dans la société, dans l'idée de réinventer la société. Vous parlez du groupe du Bloomsbury et de la façon dont ce modèle libertaire a aussi évidemment des liens très forts dans des modèles économiques étudiés par Keynes. On peut citer aussi le couple de Anna Oesch et de Raoul Hausmann, donc deux artistes de la scène dadaïste berlinoise, où Raoul Hausmann, qui écrit sur Welt dit qu'il faut en terminer avec le modèle masculin et le patriarcat de la société allemande, donc de Guillaume II. Et donc il pousse cette compagne avec laquelle il vit pendant 7 ans, avec laquelle il va créer des photomontages tout à fait exceptionnels. Et donc le photomontage par, je dirais, la lacération de l'image par ces collages hétérogènes est aussi une façon de chahuter l'ordre établi et d'inventer ce que Raoul Hausmann appelle la nouvelle femme. Cette nouvelle femme, c'est important parce que ça va nous guider à, évidemment, le droit de vote des femmes en Allemagne en 1918.
Avec quelque chose de terrible, puisque donc ces collages et ces expositions, notamment la première foire internationale Dada, c'était en 1920, avec les prodromes du nazisme, et on voit donc le décalage qu'il y a entre cette grande liberté et l'épisode terrible qui va suivre. Emma Lavigne, couple moderne 1900-1950, c'est l'exposition qui est organisée au centre Pompidou-Metz. On se retrouve aux environs de 8h20 pour continuer à évoquer ce que l'amour fait à l'art et réciproquement. Il est 8h sur France Culture.